Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant la prière. Et nous en sommes au numéro 14, à l'étude numéro 14. Aujourd'hui, le thème sera « Prier par l'Esprit Saint ». À de multiples reprises dans ce que nous avons pu voir ensemble lors de ces études, nous avons pu constater que nous dépendons du Saint-Esprit dans la prière. Ceci ressort avec une grande netteté dans Éphésiens au chapitre 6 verset 18. Prions en tout temps. Et on peut dire dans l'esprit, et ceci par toutes sortes de prières et de supplications. Et il nous est dit dans Jude, au verset 20, que là il est dit « prions par le Saint-Esprit ». Effectivement, tout le secret de la prière réside dans ces mots « par l'Esprit Saint ». Par l'Esprit Saint. En effet, et la prière que Dieu le Père exauce, c'est bien entendu celle que Dieu le Saint-Esprit nous a inspirée. Les disciples ne savaient pas comment prier. Aussi dirent-ils à Jésus, ils lui dirent, mais nous avons aussi un maître et un guide tout près de nous pour nous aider, selon Saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous est-il dit dans Romains, au chapitre 8, verset 26. En effet, voyez-vous, il nous enseigne comment prier. La véritable prière est la prière par l'Esprit Saint, c'est-à-dire la prière que l'Esprit Saint inspire et dirige. Quand nous nous plaçons dans la présence de Dieu, il faudrait que nous reconnaissions notre faiblesse, notre ignorance des sujets à présenter dans la prière et de la manière de les présenter. Conscient également alors de notre incapacité à prier comme il faut, nous devrions élever nos pensées vers le Saint-Esprit. Oui, nous devons nous reposer pleinement sur lui pour diriger nos prières, pour orienter nos désirs et en guider l'expression. En effet, rien n'est plus insensé quand nous prions que de nous précipiter étourdiment en la présence de Dieu pour demander la première chose qui nous vient à l'esprit ou une chose par laquelle un ami irréfléchi, nous a demandé de prier. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, eh bien, nous devrions tout d'abord garder le silence devant lui. Je répète, quand vous et moi entrons dans la présence de Dieu, nous devrions tout d'abord garder le silence devant lui. Disons une minute de silence. Et nous devrions regarder à lui, à Dieu, pour qu'il nous envoie son Saint-Esprit, afin de nous enseigner comment prier. Il nous faut attendre le Saint-Esprit et nous soumettre à l'Esprit Saint. Alors seulement, nous prierons de la bonne manière. Voyez-vous, fréquemment, quand nous venons à Dieu dans la prière, nous ne nous sentons pas disposés du tout à prier. Que faire en pareil cas. Devons-nous cesser de prier jusqu'à ce qu'on s'y sente disposé? Mais pas du tout. Et c'est précisément quand nous nous sentons le moins disposés à prier que nous en avons le plus besoin. Nous devrions nous tenir en paix devant Dieu et lui dire combien nos cœurs sont froids et vides de prière. Regarder à lui, lui faire confiance et attendre de lui qu'il envoie son Saint-Esprit pour réchauffer nos cœurs et les élever dans la prière. Oui, il nous faudra pas plus longtemps pour que l'ardeur de la présence du Saint-Esprit remplisse nos cœurs et pour que nous commencions à prier librement. Je vais vous dire une chose étonnante et d'une manière directe, fervente et puissante, beaucoup des moments de prière les plus bénis que j'ai jamais connus ont commencé dans un sentiment profond de mort spirituelle et une absence complète d'esprit de prière. Je répète, beaucoup des moments de prière les plus bénis que j'ai jamais connus ont commencé dans un sentiment profond de mort spirituelle et une absence complète d'esprit de prière. Mais dans mon impuissance et dans ma froideur, je me suis abandonné à Dieu. J'ai regardé à lui pour qu'il m'envoie son Saint-Esprit afin de m'enseigner à prier. Et il l'a fait. Alléluia! Voyez-vous, quand nous prions par l'Esprit Saint, nous demandons ce qui convient et comme il convient. Il y a alors la joie, il y a la puissance dans notre prière. Pour prier avec puissance, il nous faut prier avec la foi. Jésus-Christ dit dans Saint Marc au chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Saint Matthieu, chapitre 11, verset 24. Quelque positive que soit une promesse de la parole de Dieu, nous n'aurons la joie d'expérimenter effectivement son accomplissement que si nous nous attendons avec confiance à l'exaucement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est ce que dit Saint Jacques, et il le dit au chapitre 1, je crois, versets 5 à 7. Eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui lui donne à tous simplement et sans aucun reproche, et elle lui sera donnée. Et cette promesse est aussi formelle qu'une promesse peut être néanmoins. Le verset suivant nous ajoute « Mais qu'il la demande la sagesse avec foi ». Et surtout sans douter. Je répète, mais qu'il demande la sagesse avec foi et sans douter. J'ai pris cela dans une version allemande. Car, voyez-vous, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. En allemand, on dit wankelmütig, zerstreut. Qu'un tel homme ou femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7, est bien explicite. Veuillez le noter. Donc, il faut qu'il y ait une attente confiante et imperturbable. On peut dire imperturbable. Mais, voyez-vous, il y a une foi qui va beaucoup plus loin que l'attente. L'attente. Cette foi, elle croit que la prière est entendue et que la promesse est même accomplie. C'est ce qui ressort du verset déjà cité. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez tout simplement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Chez moi-même, je vous l'avoue, aussi, comme vous, quelques peines avec tout cela. Mais comment acquérir une telle foi? Eh bien, vous savez, c'est pas tout simple, je l'avoue, hein, on veut quand même pas mentir. Disons, avec la dernière énergie, que ce ne peut être ainsi évertuant, car plus d'une personne ayant lu cette promesse faite à la prière de la foi demande, voyez-vous, elle demande les choses qu'elle désire et essaye de se persuader que Dieu a entendu la prière. Ceci ne peut amener que de la déception, car ce n'est pas toujours une foi réelle. Et c'est en effet sur ce point-là qu'en essayant de produire la foi par un effort de leur volonté, bien des gens provoquent au contraire l'effondrement de leur foi. La chose qu'ils étaient efforcés d'attendre avec foi ne leur étant pas donnée. Le fondement même de leur foi s'en trouve le plus souvent sapé. Mais alors, comment vient la véritable foi? Romains chapitre 10, verset 17 répond très bien à cette question. Ainsi, la foi vient de ce que on entend. Et ce que on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir une foi véritable, chers amis, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons découvrir ce qui y est promis. Et puis, tout simplement croire à ces promesses de Dieu. Je pense que la foi doit être couverte par une garantie. La foi doit être couverte, comme je viens de dire, par une garantie. Donc, il nous faut essayer de croire quelque chose parce que on peut absolument y croire. Et y croire n'est pas toujours la foi, mais croire ce que Dieu dit. Avez-vous compris? Croire ce que Dieu dit dans sa sainte parole, voilà la véritable foi. Donc, si je veux prier avec foi, il faut que je trouve quelque chose, quelque promesse dans la parole de Dieu sur laquelle ma foi puisse reposer. La foi, en outre, vient par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint connaît en effet la volonté de Dieu. Et si je prie par l'Esprit Saint et compte sur l'Esprit Saint pour m'enseigner la volonté de Dieu, il me conduira dans la prière selon sa volonté et me donnera l'assurance que la prière va être exaucée. Alléluia. Mais en aucun cas la foi véritable ne vient de ce que nous avons simplement décidé et que nous allons obtenir la chose désirée simplement parce que nous avons décidé quelque chose. S'il n'y a ni promesse dans la parole de Dieu à ce sujet, ni indication claire et nette de l'Esprit Saint, il ne peut y avoir aucune foi véritable et on ne devrait jamais se reprocher de manquer de foi en pareil cas. Mais voyez-vous, si la chose désirée, qu'elle est promise dans la parole de Dieu, et que nous doutions, alors nous avons tout lieu de nous condamner à cause de notre manque de foi. Car nous faisons Dieu menteur en doutant de sa sainte parole. Une personne avait une magnifique villa près de la mer. Qu'est-ce que c'est merveilleux, hein, d'avoir cela. C'est pas mon cas. Mais il y avait malheureusement une petite colline entre sa villa et la mer qui empêchait tout simplement d'avoir, comme on dit parfois, une belle vue sur la mer. Et cette personne répéta tous les soirs en disant la prière qui est promise dans Saint Matthieu chapitre 11 verset 24 pour que le Seigneur enlève enfin, s'il vous plaît, la colline. Hélas, sans aucun résultat. Ou si elle a perdu totalement la foi en Dieu. Il n'a donc pas fallu beaucoup de choses pour qu'elle abandonne sa foi dans le Seigneur. Et c'est à vous de juger, chers amis, si c'est la faute à Dieu ou au manque de sagesse. Manque de sagesse et de logique de cette personne. À mon avis, cette prière est simplement égoïste. Chers amis, par deux paraboles de l'évangile de Saint Luc, Jésus-Christ enseigne avec beaucoup de force cette leçon que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. La première se trouve dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 8, et l'autre au chapitre 18, toujours de Saint Luc, versets 1 à 8. Là, il est dit que Jésus-Christ leur dit: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car vois-tu, un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et malheureusement je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée, et mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Mais je vous le dis, quand même, il ne se leverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami. Il se lèverait tout de même à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 8. C'est selon une version allemande, malheureusement, mais ce n'est pas tout faux, croyez-moi. Donc, cher ami, que ce soit allemand, anglais ou français, croyez-moi, la Bible est vraiment merveilleuse. Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, que ce soit en anglais, en portugais ou en espagnol ou en serbe, et je ne sais pas encore toutes les autres langues, et ne point se relâcher. Du reste, il dit dans Saint Luc chapitre 18, versets 1 à 8, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu ni diable et qui n'avait d'égard pour absolument personne. Mais il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il avait refusé. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour absolument personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune et comment, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice, je vous le demande, à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Moi, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, alors là, trouvera-t-il la foi, encore la foi, sur la terre? » Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Dans la première de ces deux paraboles, Jésus-Christ expose d'une façon saisissante la nécessité de prier jusqu'à l'importunité. Le mot rendu par importunité signifie littéralement effronterie, comme si Jésus avait voulu nous faire comprendre que Dieu voudrait nous voir, nous approcher de lui avec une résolution très ferme afin d'obtenir les choses désirées, qu'aucun refus ni retard apparent de sa part ne puisse changer notre assurance en confusion. Donc, Dieu se réjouit de la sainte audace de ceux qui ne s'accommodent point d'un refus. Et c'est là l'expression d'une grande foi. Et rien, chers amis, n'est plus agréable à Dieu que la foi simple comme d'un enfant. Il semble presque que Jésus-Christ ait repoussé la femme syro-phénicienne avec rudesse dans Saint Matthieu chapitre 15 verset 28, mais attention, elle ne voulut pas se laisser repousser, pas du tout. Aussi Jésus-Christ considéra-t-il son odieuse, ou plutôt, soyons francs, non pas odieuse, mais son audacieuse importunité, et ceci avec plaisir. Et même, il lui dit, « Femme, ta foi est vraiment grande. » Ah oui. Et donc, puisque ta foi est vraiment tellement grande, « qu'il te soit fait Absolument, comme tu veux. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 28. Donc, Dieu ne permet pas toujours, oh non, pas toujours, que nous obtenions du premier coup les choses que nous nous efforçons d'acquérir par notre travail. Il veut nous exercer et faire de nous des hommes, des femmes solides en nous obligeant à travailler dur pour ce qu'il y a de meilleur. C'est pas merveilleux cela? Pour ce qu'il y a de meilleur. De même, il n'exauce pas toujours notre prière de la première demande. Il veut nous exercer et faire de nous des hommes de prière solides en nous obligeant à prier dur pour ce qu'il y a de meilleur. Il nous fait prier jusqu'au bout. Je suis heureux, chers amis, qu'il en soit ainsi. On ne peut être exercé à la prière d'une façon plus bénie qu'en étant contraint à redemander encore et toujours avant d'obtenir ce que l'on recherche. Aussi, quand Dieu ne leur accorde pas l'objet de leur requête, je répète parce que je me suis fourvoyé avec ma langue, quand Dieu ne leur accorde pas l'objet de leur requête à la première ou à la seconde prière, eh bien, malheureusement, bien des gens nous disent « Oh là là, eh bien, je pense que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. » Et ils appellent cela être de la soumission. Ah oh ben moi, je m'étonne un peu, mais cela est une erreur. En règle générale, ce n'est pas de la soumission, ça c'est de la paresse spirituelle. Voyez-vous, dans le domaine de l'action, quand nous abandonnons après avoir fait un ou deux efforts pour obtenir quelque chose, nous n'appelons pas cela de la soumission à la volonté de Dieu, mais il me semble que c'est de la faiblesse de caractère. Voyez-vous, quand un homme, une femme d'action énergique entreprend quelque chose, il ou elle ne réussit pas à la première fois, la seconde peut-être, ou, va savoir, à la dixième fois. Il ou elle va continuer à frapper à coups redoublés, et ceci jusqu'à ce qu'il y ait une réussite. De même, l'homme et la femme de prière, énergique, quand il ou elle entreprend de prier pour quelque chose, elle ou lui continue à prier jusqu'au bout et obtient ce qu'il recherche. Nous devrions prendre bien garde à ce que nous demandons à Dieu, je répète. Il me semble que nous devrions un peu plus réfléchir, prendre garde à ce que nous demandons à Dieu. Parce que souvent nous demandons n'importe quoi, égoïstement. Mais quand nous commençons à prier pour quelque chose, nous ne devrions jamais cesser de prier avant de l'avoir obtenu ou avant que Dieu nous ait montré très clairement et très nettement que ce n'est pas sa volonté de nous l'accorder. Pardon. Certains voudraient nous faire croire que prier deux fois pour la même chose dénote l'incrédulité et que nous devons la saisir dès la première demande. Certes, il arrive que nous soyons capables par la foi en la parole de Dieu ou en la première fois ce que nous avons demandé à Dieu de le recevoir. Mais incontestablement, il arrive aussi que nous devrions prier à de multiples reprises pourquoi ? Pour une même chose, avant d'obtenir l'exaucement. Voyez-vous, ceux qui ne vont jamais, jusqu'à prier deux fois, et ceci pour une même chose, il me semble qu'ils ont même dépassé leur maître. Lisez un peu Saint Matthieu chapitre 26 au verset 44. Georges Müller, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il pria quotidiennement, pour deux hommes qu'il connaissait intimement, et ceci pendant plus de 60 ans. Ça, c'est incroyable. Nous, on ne fera jamais, parce qu'on n'a pas la patience. Or, l'un d'eux a été converti peu avant la mort de Georges Müller. Et voyez-vous, c'était à la dernière réunion qu'il avait faite. Et l'autre, il a été converti moins d'une année après. On a grand besoin, chers amis, à l'heure présente, des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de commencer à prier, mais qui continuent à prier. Oui, prier jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils attendent de leur Seigneur. Une autre chose très importante, la Bible nous dit dans Saint Jean chapitre 5, non c'est faux, chapitre 15, je répète, la Bible nous dit dans Saint Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Tout le secret de la prière se trouve donc dans ces paroles de notre Seigneur. Et voici la prière qui dispose d'un pouvoir illimité. Il est dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a donc un moyen de demander et d'obtenir exactement ce que l'on demande et tout ce que l'on demande. Or, Christ nous pose deux conditions. Je répète, deux conditions à cette prière qui est toute puissante. Quelles sont ces deux conditions? Premièrement, la prière qui contient ceci. Si vous demeurez en moi, voilà la condition. Si vous demeurez en moi. Qu'est-ce que demeurer en Christ? Quelques-unes des explications données sont si profondes et même si mystiques que pour beaucoup d'enfants de Dieu, elles ne signifient pratiquement rien. Pourtant, ce que Jésus-Christ voulait dire est en réalité très simple. Il venait de se comparer à une vigne et ses disciples à des sarments. quelques sarments restent attachés à la vigne, c'est-à-dire ils demeurent dans une vivante union avec elle, de sorte que la sève, ou si vous voulez la vie de la vigne, afflue constamment en eux. Donc, ils n'ont aucune vie indépendante qui leur soit propre. Tout en eux est simplement le produit de la vie de la vigne qui s'écoule en eux. Et nous devons, chers amis, renoncer à toute vie indépendante de Christ et s'attendre à lui constamment, pour qu'il nous infuse sa vie et la manifeste à travers nous. Quand nous faisons cela, et dans la mesure où nous le faisons, eh bien nos prières obtiendront ce que nous attendons de Dieu. Il ne peut en être autrement, car nos désirs ne seront plus alors nos propres désirs, mais seront les désirs de Christ, et nos prières ne seront plus en réalité nos propres prières et de nos propres désirs, mais elles seront celles de Christ priant en nous. Alléluia! Aussi, de telles prières seront toujours en harmonie avec la volonté de Dieu, et le Père va exaucer toujours son Fils bien-aimé. Quand nos prières échouent, eh bien c'est parce que elles sont tout simplement les nôtres. Nous avons conçu le désir, établi et même la demande par nous-mêmes, au lieu de nous attendre à Christ afin qu'il prie par nous. Dire qu'il nous faut demeurer en Christ dans toutes nos prières et nous attendre à Christ pour qu'il prie par nous plutôt que prier nous-mêmes revient simplement à dire que nous devons prier par l'Esprit Saint. Et quand nous demeurons ainsi en Christ, nos pensées ne sont pas nos propres pensées, mais ce sont les siennes. Notre fruit n'est pas notre propre fruit, mais c'est le sien. C'est exactement comme les bourgeons, comme les feuilles, les fleurs et les fruits du sarment qui demeure dans la vigne, comme vous l'avez compris, et ne sont pas ceux du sarment, mais ce sont ceux de la vigne elle-même, dont la vie s'écoule dans le sarment et se manifeste par ses bourgeons, ses feuilles, ses fleurs et même ses fruits. Donc, pour demeurer en Christ, il faut évidemment être déjà en Christ, l'ayant accepté comme le Sauveur dont l'expiation nous a rachetés de la culpabilité du péché et dont la résurrection nous a délivrés de la puissance du péché et qui règne maintenant en Seigneur et Maître sur toute notre vie. Je répète, pour demeurer en Christ, il faut évidemment être déjà en Christ, c'est la moindre des choses. Et l'ayant accepté comme le Sauveur dont l'expiation nous a racheté de la culpabilité du péché, et dont la résurrection nous a délivrés de quoi ? Délivrés de la puissance du péché, et qui règne maintenant en Seigneur et Maître sur toute toute notre vie. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, mais il est une autre condition mentionnée dans ce verset, quoique elle soit en réalité continue ou contenue, on peut dire, dans la première. C'est-à-dire, c'est ces mots qui nous disent que mes paroles demeurent en vous. Je répète, ces mots nous disent clairement, ils nous disent ceci, que mes paroles, les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur, puissent demeurer en vous, en nous, en moi. Si nous voulons obtenir de Dieu tout ce que nous lui demandons, les paroles de Christ doivent et forcément demeurer ou rester en nous. C'est la moindre des choses, non? Nous devons étudier donc ces paroles bel et bien, et nous devons même les dévorer, les laisser s'enfoncer dans notre pensée et dans notre cœur, même les garder dans notre mémoire si c'est possible, si on n'a pas du Alzheimer évidemment, et leur obéir constamment dans notre vie, de les laisser façonner et modeler donc notre vie de chaque jour, et ceci jusqu'au moindre de nos actes. Oui, c'est pas facile. Et c'est vraiment là le moyen de demeurer en Christ. Et c'est par ces paroles-là que Jésus-Christ se communique lui-même à nous. Les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie, selon saint Jean, chapitre 6, verset, je crois, 63. Il est donc vain d'espérer être puissant en prière, à moins de méditer beaucoup sur les paroles de Christ et de les laisser s'enfoncer profondément, profondément dans nos cœurs, pourquoi ? Pour y trouver leur demeure. Beaucoup s'étonnent d'être si impuissants dans la prière, mais cela s'explique très simplement par leur négligence des paroles de notre Seigneur. Ils n'ont pas serré ces paroles dans leur cœur. Ces paroles ne demeurent pas en eux. Ce n'est pas par des accès de méditation mystique ou d'expérience extatique que nous apprendrons à demeurer en Christ. C'est en nous nourrissant de sa sainte parole, de sa parole écrite, telle que nous la trouvons dans la Bible, et en regardant au Saint-Esprit pour qu'il implante ces mots dans nos cœurs et les y fasse vivre. Si nous laissons ainsi les paroles de Christ demeurer en nous, elles nous pousseront à la prière. Elles seront, il me semble, le moule dans lequel nos prières prendront forme, et nos prières seront nécessairement selon la ligne de la volonté de Dieu, et ils prévaudront auprès de lui. Mais il est presque impossible de prier de cette manière-là quand on néglige l'étude de la parole de Dieu. Une simple étude intellectuelle de la parole de Dieu n'est pas toujours suffisante. Il faut qu'elle soit méditée, il faut qu'elle soit tournée et retournée dans notre esprit en regardant constamment à Dieu pour que, par son Esprit Saint, il la rende vivante dans nos cœurs. La prière née dans la méditation de la parole de Dieu est celle qui s'élance le plus aisément vers l'oreille attentive de Dieu. Je répète, la prière naît, qui est née dans la méditation de la parole de Dieu. C'est celle qui s'élance le plus aisément vers l'oreille attentive de Dieu. Il y a une chère sœur en Christ qui m'a dit, mais tu te répètes sans arrêt, tu es vieux. C'est vrai que je suis même très vieux. Et c'est vrai que quand on est vieux, on se répète. Je suis d'accord. Elle n'a pas tort. Alors, elle me dit, tu te répètes un peu trop. Mais ça fait rien. George Müller, c'était l'un des plus puissants hommes de prière. Et comment ? Il commençait, quand venait l'heure de la prière, par lire et méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que, écoutez bien, jusqu'à ce que de cette étude, une véritable prière a pu commencer à se former dans son cœur. Ainsi Dieu lui-même était le véritable auteur de la prière et il répondait à la prière qu'il avait lui-même inspirée. La parole de Dieu est l'instrument au moyen duquel le Saint-Esprit peut agir. Elle est l'épée de l'Esprit à plus d'un point de vue. Celui qui veut expérimenter l'action du Saint-Esprit dans une quelconque direction doit se nourrir de la parole de Dieu. Alors, on me dira, mais je sais tout cela. Tu es en train de te répéter, mon pauvre vieux. Celui qui veut prier par l'Esprit Saint doit longuement méditer la Sainte Parole afin que le Saint-Esprit dispose du moyen approprié pour agir. Et c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit forme en nous ses prières et la négligence de la parole de Dieu, croyez-moi, rend impossible la prière par le Saint-Esprit. Si nous alimentons le feu de nos prières, de ce combustible qui est la parole de Dieu, alors toutes nos difficultés disparaîtront. Et oui, que on le veuille ou pas. Chers amis, il me semble que nous devons également prier avec quoi ? Avec action de grâce. Oui, en effet, il y a dans l'enseignement relatif à la prière que l'apôtre Paul nous donne dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, une expression à laquelle on ne prend pas assez garde. Là, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ceci afin, en plus, encore avec des actions de grâce. Et alors là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cette expression importante, si souvent négligée, et je me pince le nez moi-même, est avec des actions de grâce. Quand nous nous approchons de Dieu pour solliciter de nouvelles bénédictions, nous ne devrions jamais oublier de le remercier pour les bénédictions déjà reçues. Alors là, je me pince le nez même très fort parce que je me sens vraiment coupable. Et c'est grave. Je le dis pour moi, hein. Je vous accuse pas, je m'accuse moi-même. Et avec raison. Donc, si l'un quelconque d'entre nous s'arrêtait à considérer le grand nombre de fois où Dieu a répondu à sa prière, à la rareté des cas où il est revenu à Dieu pour lui rendre grâce, alors je suis sûr qu'il serait écrasé de honte. Il nous faut être aussi précis, croyez-moi, en rendant grâce que nous le sommes en priant pour demander ceci et cela. Nous venons à Dieu avec des demandes bien précises, mais quand nous lui rendons grâce, c'est d'une manière vague et plutôt générale. Sans aucun doute, une des raisons pour lesquelles tant de nos prières manquent carrément de puissance, c'est que nous avons tout simplement négligé de rendre grâce pour les bénédictions déjà reçues. Si l'un d'entre vous me donne 20 francs parce que j'en ai vraiment besoin, ce serait la moindre des choses que je vous sois infiniment reconnaissant. Et comment ? Si quelqu'un venait constamment solliciter notre aide sans jamais nous dire merci, nous nous lasserions vite de secourir un être aussi ingrat. L'intérêt même de celui que nous avons secouru nous retiendrait de le faire davantage, par crainte d'encourager une telle ingratitude. Hein ? Ça tient debout, non ? Oui, sans aucun doute, notre Père Céleste, par un sage égard pour notre plus grand bien, refuse fréquemment de répondre à des demandes que nous avons fait monter vers lui afin que nous soyons amenés à prendre conscience, enfin, de notre ingratitude et que nous apprenions à être reconnaissants. Soyons, chers amis, toujours reconnaissants, même pour un kilo de pommes. Et comment ? Voyez-vous, Dieu est profondément affligé par notre ingratitude et la négligence de lui rendre grâce, dont beaucoup d'entre nous, et moi y compris, nous nous rendons coupables. Et quand Jésus-Christ avait guéri les 10 lépreux, rappelez-vous, et c'est terrible, mais c'est vrai, et qu'un seul seulement est revenu pour lui rendre grâce, pour le remercier, il s'est écrié avec beaucoup de surprise et beaucoup de peine dans le cœur. Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Je vous le demande. Mais alors, les 9 autres, où sont-ils ? S'il vous plaît, où sont-ils ? Saint Luc chapitre 17, verset 17. Comme il doit souvent baisser les yeux sur nous, attristé de nous voir oublier ses bénédictions et ses fréquentes réponses à nos prières. Rendre grâce pour les bénédictions reçues, croyez-moi, cela augmente notre foi et nous rend capables de nous approcher de Dieu avec une nouvelle audace et une nouvelle assurance. Sans aucun doute, la raison pour laquelle tant de gens ont si peu de foi quand ils prient, c'est qu'ils prennent très peu de temps, oui, très peu de temps, pour méditer sur les bénédictions, qu'ils ont reçues, et de remercier Dieu. Oui, je prends tout cela aussi pour moi. Lorsque nous méditons sur les réponses qui ont été accordées à nos prières, la foi devient de plus en plus hardie et nous arrivons à éprouver au plus profond de nos âmes qu'il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Lorsque nous réfléchissons d'une part à la merveilleuse bonté de Dieu à notre égard et d'autre part au peu de pensée, au peu de force et de temps que nous avons jamais consacré à rendre grâce, nous ne pouvons que nous humilier devant Dieu et de confesser notre péché et le mien. J'ai pas peur de le dire, car c'est vrai. Les hommes de la Bible qui ont été puissants en prière, comme ceux de toutes les époques de l'histoire de l'Église, ont été quoi ? Ont été des hommes qui se livraient abondamment à la louange et aux actions de grâce. David était un homme très puissant en prière. Et voyez combien ces psaumes abondent en louanges et en actions de grâce. Les apôtres étaient des hommes très puissants en prière. Et nous lisons à leur sujet qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Saint Paul était un homme très puissant en prière. Et combien de fois dans ses épîtres, il éclate en des actions de grâce bien définies, rendues à Dieu pour des bénédictions déterminées et des exaucements précis. Jésus-Christ est vraiment notre modèle dans la prière comme dans toute autre chose. Or, nous trouvons, en étudiant sa merveilleuse vie, que sa manière de rendre grâce au plus simple repas était même si remarquable, écoutez bien, que deux de ses disciples ont reconnu cela après sa résurrection. Ils l'ont reconnu et d'une façon instantanément. Quand donc rendre grâce est un des résultats qui accompagne inévitablement la plénitude du Saint-Esprit, et celui qui n'apprend pas à rendre grâce en toute chose ne peut pas continuer à prier par l'Esprit Saint. Jamais. Si nous voulons apprendre à prier avec puissance, nous devons laisser cette expression pénétrer bien profondément dans notre cœur. Oui, chers amis, remercions notre Seigneur pour tout, absolument tout, ce qu'il a déjà fait pour nous et pour ce que nous attendons encore de lui, et toujours avec action de grâce. Prions maintenant, si vous le voulez bien, ensemble. Ô Seigneur, oui, nous désirons, et je désire ne pas nous rendre indépendants de toi, et même parfois nous séparer de toi. nous désirons sincèrement nous laisser conduire par ta volonté. Oui, tu me désires et tu nous désires, mais tu nous désires pas seulement d'une façon superficielle, mais tu réclames de nous. Tu nous réclames de nous un amour inconditionnel. Donc, ô Seigneur, purifie mon être, notre être tout entier, et ceci afin de pouvoir mieux pouvoir te servir. Amen. Et chers amis, encore une fois, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Que le Seigneur vous bénisse en tout. Et que puis-je dire? Merci. Et à bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir. Au revoir.